Deux fois, ouais. Merci pour cette parole de connaissance. Alors, je dois me présenter. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais le pasteur de l'église d'à côté. Je ne le suis plus depuis fin septembre. J'ai repris une activité salariée dans une société pour me consacrer à Open Joy, au travail auprès des personnes en situation de prostitution. On a une très bonne équipe dont Aline fait partie. Et donc voilà, un temps de transition. Vous allez bien ? Oui ? J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux et que vous puissiez, par vos mots, par vos paroles, autoriser le Saint-Esprit ce matin à toucher vos cœurs et lui dire « Saint-Esprit, je te donne l'autorisation de toucher mon cœur, de toucher ma vie, de toucher mes pensées. Je te donne l'autorisation ce matin vraiment de me toucher d'une manière spécifique et spéciale. » Amen. Je vous invite à vous asseoir. Il y a quelques semaines, je priais, je disais « Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apporter ?» Tout d'abord, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, de me permettre de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. C'est un honneur et je me sens honoré. Et nous sommes heureux d'être là en famille. Donc il y a quelques semaines, je disais « Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apporter ?» Puis j'ai changé ma manière de prier. Je dis « Seigneur, qu'est-ce que l'Église a besoin ?» Non plus focaliser sur moi, mais focaliser sur le Seigneur et surtout sur vous, sur les besoins. Et mercredi matin, des fois on espère que ça arrive bien avant, mais des fois ça arrive que le mercredi matin, j'ai eu une image et un mot concernant votre Église et concernant des personnes qui sont ici. L'image que j'ai eue, c'est celle d'une charnière. La charnière nous parle d'ouvrir, fermer, nous parle de passer à autre chose, d'une étape. C'est comme cela que je l'ai vu. Et pendant qu'on était dans le moment de louange, j'avais cette image d'une transformation d'une chenille en papillon. C'est vrai que les étapes sont difficiles. Et je crois qu'en tant qu'Église, vous êtes dans une période d'étape. Vous êtes dans une étape. Et plusieurs personnes ici, vous êtes dans une étape également, dans une étape familiale, dans une étape professionnelle, dans une étape, peu importe l'étape dans laquelle vous êtes, mais généralement, les moments charnières de nos vies, ce sont souvent des moments inconfortables. Souvenez-vous, lorsque vous étiez adolescent, c'était des moments charnières, des moments inconfortables, la voix qui change, les boutons qui apparaissent, mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Et à cette image, s'est greffé un mot, c'est celui de l'encouragement. Et je suis venu ce matin afin de vous encourager. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? C'est mieux que de venir vous décourager. Waouh ! Bon, en tout cas. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de choses que vous savez. Mais je crois que l'encouragement, la puissance de l'encouragement est une clé pour vos vies et une clé pour votre église locale, pour cette église. Je crois que nous pourrions tous lever la main en disant que nous avons tous besoin d'être encouragés. Nous avons tous besoin d'encouragement. Et nous sommes dans un environnement, nous sommes dans une culture en France qui est une culture de découragement. Il vous suffit de regarder la télévision, d'écouter les émissions. Nous sommes dans une culture de critique. Il existe des critiques constructives, mais il existe beaucoup de critiques négatives. Et nous sommes dans un environnement qui décourage. Nous sommes dans un environnement de critique constante. Ce qui fait qu'en tant qu'individu et en tant qu'Église, nous pouvons être impactés de cette manière, de cette culture française, qui est une culture souvent de critique et de découragement. Il y a des cultures à travers le monde et dans lesquelles, lorsque vous arrivez à présenter un projet, les gens vous encouragent. Mais en France, je trouve qu'on a la culture du découragement. Quand les gens arrivent avec un projet, une idée, on leur donne les 10 raisons pour lesquelles ils ne devraient pas s'engager. Les 10 raisons qui vont faire qu'ils vont échouer. C'est une réalité. Et nous avons tous besoin d'être encouragés parce que la Bible nous encourage à nous exhorter mutuellement, à nous encourager mutuellement. La critique est bien plus facile que l'encouragement. Le découragement est bien plus facile. Il est beaucoup plus facile de décourager, il est beaucoup plus facile de critiquer que d'apporter une solution. Et je crois que nous devrions avoir ce principe. Il n'est pas interdit de critiquer. Il n'est pas interdit de ne pas être en accord. Mais je crois qu'à chaque critique devrait avoir une solution. Tu as le droit de critiquer, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais alors apporte une solution. Mais aujourd'hui, nous avons souvent la critique facile et gratuite. Nous citons souvent l'apôtre Pierre pour ses erreurs, n'est-ce pas ? Ah, c'est le gars qui a renié Jésus. C'est le gars qui a renié Jésus, c'est le gars qui a été repris par Jésus, arrière de moi, Satan. C'est le gars qui a douté lorsqu'il est sorti du bateau, qui a eu un doute, qui a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Oui, c'est vrai. Mais parfois, on ne regarde que le verre à moitié vide. Mais s'il est à moitié vide, c'est aussi qu'il est à moitié plein. On dit des gens qu'ils sont à moitié morts, mais s'ils sont à moitié morts, c'est aussi qu'ils sont à moitié vivants. Alors oui, Pierre s'est enfoncé dans l'eau, mais au moins il est sorti de sa barque. Il a expérimenté quelque chose que ceux qui sont restés dans la barque ne peuvent pas expérimenter. Certes, il y a eu un moment de doute, de flottement, mais au moins il a expérimenté quelque chose de différent qui lui a servi tout au long de sa vie. Le découragement, c'est un voleur de joie, un voleur de paix. Le découragement nous conduit à la lassitude, au doute, à la fatigue, à la dépression. Le principe du découragement, c'est de se focaliser sur ce qui ne va pas. Dieu a-t-il réellement dit, souvenez-vous, dans le jardin, plutôt que d'amener et de se focaliser sur toutes les possibilités que Dieu avait pour Adam et Ève, le diable a réussi à faire focaliser Ève sur une interdiction, qui était une protection pour eux. Le découragement, c'est arriver à se focaliser que sur le mauvais. Nous sommes appelés à être encouragés, mais nous sommes appelés à être de ceux qui encouragent. La Bible répète à de nombreuses reprises de s'encourager mutuellement, à persévérer, à aller de l'avant. Et je crois que l'une des clés pour nos vies, l'une des clés pour votre Église, c'est l'encouragement. L'encouragement, c'est comme une locomotive. C'est l'une des clés, ce n'est pas la clé, c'est une des clés. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11 nous dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Que signifie encourager ? C'est inciter à persévérer, réconforter, exhorter, stimuler à faire mieux, inspirer au courage. C'est pousser à aller de l'avant. C'est favoriser une action. Tandis que décourager, c'est agir négativement sur la motivation de quelqu'un. Encourager, c'est donner du cœur. Encourager et aimer, cela va ensemble. Encourager, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres qui nous incite à parler, à agir. Souvenez-vous, David, sur le champ de bataille, alors qu'il vient apporter des vivres sur l'ordre de son père, son propre frère lui dit « Petit orgueilleux, tu es venu pour espionner. » Il lui prête de mauvaises intentions. Alors que son propre frère aurait dû l'encourager, il le décourage. Et que fait David ? Eh bien, il se détourne de ses paroles de découragement afin de se tourner vers ceux et celles qui l'encouragent. Le découragement est un poison. Dans la Bible, le terme « encourager » se dit « paraclésis ». Et il est intéressant de noter que le terme est interchangeable avec le terme « consoler ». Barnabas, paraclésos, fils de la consolation, fils de l'exhortation, c'était dans la nature de Barnabas que d'encourager les autres, que de voir. Il y a des gens qui ne voient que le mauvais dans les gens, mais Barnabas ne voyait que le bon. Il voyait le potentiel, il voyait ce qu'il pouvait être amélioré. Il voyait le fort potentiel. Et je ne vous apprends rien, vous vous souvenez de cette dispute qu'il y a eu avec l'apôtre Paul au sujet de Jean-Marc, parce que Jean-Marc les avait abandonnés lors du premier voyage missionnaire. Et Barnabas souhaite reprendre Jean-Marc, mais l'apôtre Paul est catégorique non, parce que Paul, c'est un sanguin, il a du caractère, il est dur parfois. Mais heureusement que Barnabas est resté auprès de Jean-Marc. Heureusement que Barnabas, fils de la consolation, de l'encouragement, s'est tenu auprès de lui. Parce que, au final, que serait devenu Jean-Marc sans encouragement? Nous n'aurions pas un évangile selon Marc. Nous avons besoin d'être encouragés. Le Saint-Esprit est appelé Paraclétos, l'avocat, celui qui se tient auprès de nous, un intercesseur, le consolateur ou celui qui encourage. Waouh ! Le Saint-Esprit est celui qui se tient à nos côtés, celui qui est en nous, pour nous exhorter, pour nous conseiller, pour nous consoler, mais aussi pour nous aider et nous encourager. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour t'encourager, pour nous encourager. Oui, c'est vrai qu'il y a des signes visibles du Saint-Esprit, comme les miracles, les prodiges, les guérisons, les prophéties. Mais il y a dans la nature du Saint-Esprit, de sa personne, dans son caractère, dans son identité, une puissance de consolation et d'encouragement. Amen. Nous avons un Dieu qui aime nous encourager, qui aime nous stimuler à aller de l'avant. Dans Josué chapitre 1, verset 9, il est dit ceci, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. » Pourrais-tu dire à la personne à côté de toi, « Fortifie-toi et prends courage. » Jésus encourageait souvent avant les miracles. Dans Matthieu chapitre 9, verset 2, il dit, « On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Dans Matthieu chapitre 9, verset 22 toujours, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Prends courage. Passe à l'action, espère, crois, mais prends courage. » J'aimerais ce matin vous donner et vous rappeler en tout cas certaines manières, certaines façons de nous encourager les uns les autres. Premièrement, et c'est la plus évidente, c'est par la parole. Parce qu'une grande partie de notre communication, nous la faisons par la parole. C'est pour cela que la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce qu'avec notre langue, nous pouvons bénir, mais nous pouvons aussi maudire. Nous pouvons encourager ou nous pouvons décourager. Nous pouvons être une source de vie ou une source de mort. C'est pour cela que Jacques dira que la langue est un membre difficile à dompter. Que la langue peut être plein de venin, mortel. Qu'avec elle, nous pouvons bénir, mais nous pouvons aussi maudire les autres. Il ajoutera que de notre bouche peut sortir la bénédiction, mais aussi des paroles de malédiction. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui veut dire que ce qui remplit nos cœurs se retrouve nécessairement sur nos lèvres. On pourrait se poser cette question, comment va notre cœur? Est-il rempli de rancœur, de rancune, d'amertume, de colère ou de reconnaissance? Parce qu'il est difficile d'encourager les autres si nous n'avons pas d'encouragement à transmettre. Certains disent qu'il faut au moins 4 paroles d'encouragement pour neutraliser une parole de découragement. Parce que l'encouragement comme le découragement agissent de manière chimique dans nos pensées. Ça amène de la stimulation, bonne ou mauvaise. Ça libère des produits chimiques dans notre cerveau, pour le bon ou pour le mauvais. Souvenez-vous, Josué et Caleb, les 12 espions envoyés à Canaan pour espionner, pour regarder. Souvenez-vous, lorsqu'ils sont revenus, Josué et Caleb ont fait un rapport basé sur les promesses de Dieu, et les 10 autres ont fait un rapport sur la réalité. Mais comment ont-ils réussi à décourager le peuple par la parole? Ils ont commencé à semer le doute, à semer même une image mentale. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Le peuple n'avait pas encore commencé à combattre qu'il était déjà vaincu par le pouvoir et la puissance de la parole. Plutôt que d'encourager en disant « Oui, il y a un ennemi, oui, il y a des géants, mais notre Dieu a donné des promesses et nous vaincrons. » Non, les 10 ont empoisonné l'ensemble en disant « C'est impossible. » Et quand ils ont dit « Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles », eh bien, généralement, si je vous dis « Pensez à un éléphant », vous pensez à un éléphant. Ça a de suite marqué leur esprit et ils se sont vus comme des sauterelles. Parce que nous sommes tels que nous pensons. La Bible nous le dit. Ce qui veut dire qu'ils se sont vus comme des sauterelles, ils ont pensé comme des sauterelles et ils ont agi comme des sauterelles. Leur seul désir, alors qu'il y avait des promesses, qu'ils étaient au bord d'entrer dans le pays de la promesse, ils n'avaient qu'une seule hâte, c'était de dire « Hey, on serait mieux de retourner en Égypte, là au moins on avait à manger, on était bien. » Et ils étaient prêts à repartir à leur ancienne condition d'esclaves, plutôt que de se dire « On va se battre, mais Dieu est avec nous. » La puissance de la parole. La puissance de la parole. Si dans ma vie, j'avais écouté les gens bien intentionnés autour de moi, je ne serais pas marié, je n'aurais pas des enfants, je ne serais peut-être pas chrétien. Vous avez très certainement entendu dans vos vies, « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, ce n'est pas pour toi. » Ce n'est pas ta place. Mais Dieu veut briser ces paroles parce que ce sont des paroles de malédiction. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons donc manifester le caractère du Saint-Esprit. Nous tenir à côté les uns des autres afin de nous encourager, encourager à persévérer, encourager à la sainteté, encourager par nos paroles, par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre parole, lorsque nous prononçons une parole de vie, elle a un effet bénéfique sur la vie des autres. Si nous pouvons considérer que nos paroles peuvent changer la vie de quelqu'un, tes paroles peuvent donner la vie, peuvent transmettre la vie. Tes paroles peuvent relever, tes paroles peuvent donner une nouvelle perspective, tes paroles peuvent changer la vie de quelqu'un. Proverbe 16, 24 nous dit « Des paroles aimables sont comme le miel ». Elles sont douces pour le cœur et font du bien au corps. La santé peut être communiquée à travers nos paroles. Proverbe 10, 11 nous dit « La bouche du juste est une source de vie. » Il y a des paroles qui apportent, qui amènent la guérison. Quand il nous est parlé du don de guérison, ce n'est pas le don de guérison, c'est le don des guérisons. Parce qu'il y a effectivement la possibilité par le Saint-Esprit d'amener la guérison, mais il y a une guérison verbale qui se fait par la parole. Et Jésus guérissait aussi par la parole. Et nous pouvons apporter la guérison à travers la parole. Jésus a amené la guérison dans le cœur de Pierre par la parole. Il lui a apporté une parole d'encouragement et de restauration. Il ne l'a pas tenu à terre, il l'a frappé en disant « Tu m'as renié ». Cette merveilleuse rencontre entre Jésus et la Samaritaine, avec nous, la Samaritaine, à coup sûr, aurait fini dans le puits. Hein, en tout cas, si on avait été les disciples. Mais Jésus voyait, il ne l'a pas accusé. Repends-toi ou tu vas griller en enfer. Non. Il lui a parlé à son cœur. Son cœur avait besoin. Son âme avait besoin. Il n'y avait pas besoin de lui dire qu'elle était une pécheresse, elle savait qu'elle était une pécheresse. Jésus lui a parlé après. Il a mis en évidence le problème de sa vie. Mais ce qu'il voulait savoir, ce qu'il voulait l'amener à confesser, c'était pourquoi avait-elle eu tant de maris? Une forme d'insécurité, un besoin d'être aimé, mais par la parole. Il a eu des paroles. Il a eu des paroles beaucoup plus dures pour les religieux. Beaucoup plus dures. Mais beaucoup moins dures pour les brebis. Jésus n'a jamais eu de paroles méprisantes, mais toujours des paroles bienveillantes. Des paroles qui élèvent et non pas des paroles qui abaissent. Je disais ce matin à quelqu'un, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres pensent et font, nous sommes responsables de nos propres paroles. Mais vous savez que nous sommes aussi responsables de la façon dont les gens nous parlent. Nous sommes en mesure de dire oui ou de dire non. Nous sommes en mesure, parfois, et des fois, nous devons dire stop. Et parfois, c'est dur quand une personne a été abusée toute sa vie, verbalement, de trouver la force et le courage de dire stop. Et c'est là qu'il faut rentrer dans un processus de guérison, de libération, pour retrouver la valeur de qui l'on est et de qui l'on est aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes appelés sel et lumière. Colossiens nous dit que notre parole doit toujours être assaisonnée, accompagnée de grâce, mais assaisonnée de sel. Avoir une parole assaisonnée, c'est avoir une parole pleine de grâce. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin de paroles de grâce. Les gens que nous côtoyons au travail, nos voisins, les gens que nous rencontrons ont besoin de grâce. C'est quoi la grâce? C'est de savoir que Dieu est en mesure de faire quelque chose pour eux qui n'est pas basé sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce que lui a fait à la croix. Les gens ont des vies brisées, des vies cassées, ils ont besoin de savoir que Dieu est en mesure de les restaurer et de les libérer. Les gens ont besoin de grâce. Ils ont tellement entendu qu'ils étaient nuls, qu'ils ne servaient à rien. Ils ont besoin de grâce. Et nous avons ce ministère de la grâce, ce ministère de la réconciliation. Quand nous allons dans la rue avec Open Joy, eh bien, on a ce ministère de la parole, on a ce ministère de l'encouragement. Je me souviens d'une jeune femme, c'était la nuit, et avant de partir, je lui dis, tu es une princesse. Et elle m'a dit non. Je lui dis, tu es une princesse. Non, non, tu es une princesse. Non, tu es une princesse. Et j'ai dû répéter beaucoup de fois, jusqu'à ce qu'elle acquiesce et qu'elle accepte. Et c'est comme si à chaque fois je lui disais, tu es une princesse, c'est comme ouais, un marteau-piqueur qui brisait un mur. Je me souviens d'une personne que je suivais. J'ai ouvert la Bible, je lui ai dit, peux-tu lire ce texte? Je suis une créature si merveilleuse. Et la personne était dans l'incapacité de penser, de croire et de parler, de proclamer cette parole de bénédiction. Parce qu'on lui avait dit toute sa vie qu'elle était nulle, qu'elle ne servait à rien et qu'elle n'arriverait à rien. La parole est puissante. Amen. Donc nous pouvons encourager, nous encourager les uns les autres et encourager les gens à l'extérieur par la parole. Par le toucher également. Une main sur une épaule, prendre quelqu'un dans ses bras. Je ne vous apprends rien en vous disant que les bébés, lorsqu'ils sont prématurés, ça, on voit cela dans certains hôpitaux, eh bien, il y a des bénévoles qui viennent prendre les bébés dans leurs bras, au contact, contre la peau, parce que les bébés ont besoin de sentir cette chaleur. Il y a des personnes qui trouvent la guérison simplement parce qu'on leur fait un câlin. Simplement cela. Jésus n'a pas eu peur de toucher les lépreux. Jésus a pris les enfants dans les bras pour les bénir. Nous avons un Dieu qui aime les câlins. Amen. Deutéronome nous dit, le Dieu d'éternité est un refuge. Chapitre 33, verset 27. Et sous ses bras éternels est une retraite. Dieu aime nous prendre dans ses bras. On peut se souvenir du fils prodigue. Lorsque le père a vu son fils, il a accouru et l'a pris dans ses bras. Jésus n'a-t-il pas démontré son affection à Jean en le prenant dans ses bras? Nous pouvons encourager les autres par la parole, mais également par le toucher. Parfois, nous sommes à court de mots et simplement une main posée sur une épaule est tout à fait rassurante et bénissante et guérissante. Parfois, nous n'avons pas les mots appropriés, adéquats dans certaines situations. Nous sommes à court de mots face au pourquoi de la vie. Mais parfois, simplement d'avoir une main posée, d'être celui qui se tient à côté, est une source d'encouragement profond. Cet après-midi, vous avez une rencontre merveilleuse. Et ce que les gens attendent, ce n'est pas un débat théologique, parce que c'est une stérilité. Et même, c'est contre-productif. Mais ce que les gens ont besoin, c'est de savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui les aiment, tels qu'ils sont. La troisième manière d'encourager les autres, c'est par une aide pratique. Et je crois que nous pouvons nous encourager de cette manière également. J'ai été deux ans dans la marine nationale, et à chaque fois que nous entrions au port ou que nous sortions du port, nous avions besoin d'aide, l'aide de remorqueurs. Et parfois dans la vie, on a besoin d'avoir des remorqueurs. Quand vous voyez une cordée d'alpinistes, il y a toujours un premier de cordée qui encourage. C'est celui qui aide, qui tire, qui donne une impulsion. Et nous avons besoin dans nos vies d'avoir des hommes, des femmes qui se tiennent à nos côtés, qui agissent comme des remorqueurs. On pense à Moïse qui était fatigué, épuisé, il n'arrivait plus à lever les mains. On l'a aidé à lever les mains. Il y a des moments dans nos vies où on est à bout de force, parce que la vie est difficile. Parce qu'on a des problèmes personnels, parce qu'il y a des situations difficiles. On est à bout de force et on a besoin les uns des autres de nous encourager, de nous porter, parfois même de nous supporter. Ma femme me supporte beaucoup. Ça sortait du cœur. Hein. Nous aimons citer Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais il y a aussi 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en pratique. C'est vrai, il faut le reconnaître. Et Jean parlera de l'amour pratique. Pas juste avec les bonnes paroles, mais que les paroles s'associent aux actes. Imaginez que vous sortiez d'ici et que vous tombiez en panne. Imaginez que toute l'assemblée passe et vous fasse « coucou ». C'est du vécu ? Non, non. Ah là là. Galates chapitre 6 nous dit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. On a besoin de manifester et c'est un encouragement. Combien c'est difficile quand des personnes passent par des moments compliqués de leur vie de savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui vont les aider. Combien c'est plus facile d'être plusieurs, la charge est moins lourde. Nous pouvons encourager les autres par la prière, parce que la présence de Dieu est une source intarissable d'encouragement et de ressourcement. La présence de Dieu est une source de réconfort. Et on peut s'encourager les uns les autres en priant les uns pour les autres. Amen. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, nous dit le psaume 147, et il panse leurs blessures. La vie chrétienne, ce n'est pas juste de prendre, mais c'est aussi de donner, de se donner. Alors il y a des moments où on n'a pas grand-chose à donner, on a moins à donner, et c'est là qu'on a besoin de s'encourager mutuellement. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu veut vous encourager dans votre nouvelle saison. Vous encourager à vous encourager. Vous encourager à semer des paroles de vie. Vous encourager à prier les uns pour les autres. Vous encourager à vous tenir là les uns pour les autres. Vous encourager à aller de l'avant. Vous encourager à ne pas lâcher. Vous encourager à ne pas arrêter. Vous encourager à ne pas repartir en arrière. Si vous regardez le sport en général, vous verrez que, et je pense que vous serez d'accord avec moi, vous dire que généralement on se souvient du premier, du deuxième, et que les derniers on ne s'en souvient jamais. C'est vrai. On se souvient de beaucoup de gens qui ont remporté des médailles, mais généralement le dernier on ne s'en souvient pas. Il y a un Anglais qui s'appelle Derek Redmond. Alors on se souvient à cette époque-là, c'était aux Jeux Olympiques de Barcelone. On se souvient de Carl Lewis, on se souvient de ceux qui ont battu des records, Marie-Jo Pérec, mais lui, personne ne s'en souvient. C'est un homme qui courait le 400 mètres. Ce n'était pas un homme qui gagnait souvent. Il avait pas mal de blessures. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques de Séoul, il avait dû abandonner quelques minutes avant le départ. Et lors de cette course au JO de Barcelone, eh bien, il n'est pas venu seul. Son père était là, dans les gradins. Et son père a dit, je suis son plus grand fan. Et le départ de la course est donné. Derek va courir, il est en course pour les qualifications. Mais 175 mètres après le départ, un claquage à la jambe. Et c'est très certainement une vidéo que vous avez déjà vue, on va la regarder, Mais d'un coup, il s'arrête net parce qu'il ressent une très grande blessure à sa cuisse. Et la douleur l'oblige à s'arrêter. Derek va s'effondrer de douleur, il va crier de manière intense. Et là, à ce moment, on voit le père de Derek pousser la sécurité, s'approcher de son fils, lui parler, le prendre dans ses bras. Mettre le bras de son fils autour de son cou et l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, alors qu'ils sont en train de marcher, il y a le staff, les juges qui sont là pour décourager justement Derek d'arriver jusqu'au bout. Mais le père prend sa défense et dit non, laissez-nous tranquilles. Oui, il a perdu, mais il ira jusqu'au bout parce que je suis avec lui, parce que je lui parle, parce que je l'encourage, parce que je le tiens dans mes bras. Parce que je vais le conduire jusqu'à la ligne d'arrivée, même s'il est blessé. Et alors qu'il s'avance vers la ligne d'arrivée, on ne le voit pas à l'image, mais on sait que le public s'est levé, le public a frappé des mains et a encouragé, se tenant debout. J'aimerais qu'on puisse regarder la vidéo, parce que c'est une chance où on s'arrête sur le chemin de la vie, des moments où il y a des blessures, des fractures, où il y a des accidents de la vie, parfois que l'on ne comprend pas, que l'on ne maîtrise pas, des pourquoi. Et cette image me fait penser à Actes chapitre 7. Alors qu'Étienne se retrouve devant une foule immense, qui va le condamner à mort, qui va le lapider. Dans Actes chapitre 7, au verset 54, la Bible nous dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ils vont le tuer pour cela. Généralement, on peut relire dans Apocalypse même, quand il y a la vision du ciel, il y a la vision du ciel, Dieu étant assis. Mais là, Étienne a une vision de Jésus debout. Debout, comme ce père qui est descendu, qui s'est mis debout et qui est descendu sur la piste auprès de son fils. L'image de cette foule qui s'est tenue debout, c'est l'image de Jésus qui se tient debout et qui au final dit à Étienne, tiens bon Étienne, la course est bientôt finie. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de lâcher. Moi je vois bien Jésus debout avec les mains sur les genoux, frappant des mains en disant, vas-y mon fils. Continue, ne t'arrête pas. Et je crois que c'est de cette même posture que Jésus a pour chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes arrêtés dans le parcours de la vie, lorsque nous avons besoin d'encouragement, lorsque nous avons besoin de ne pas lâcher, Jésus se tient debout. Mais il se tient aussi en nous, nous encourageant, nous disant « Ne lâche pas. Continue à croire et à espérer pour ta famille, pour ton travail, pour ta situation. Ne lâche pas. Tu as déjà fait le plus dur. » Souvent, dans la course à pied, souvent le plus dur, c'est les derniers kilomètres. Pourquoi voudrais-tu t'arrêter alors que tu as parcouru tant de kilomètres? Ne t'arrête pas au dernier kilomètre. Jésus se tient debout, nous encourageant à ne pas lâcher, à ne pas désespérer, à aller de l'avant. Amen. Le Seigneur veut ce matin nous encourager et nous encourager à encourager les autres. J'aimerais vous inviter simplement à baisser vos têtes et à fermer vos yeux. J'aimerais que pendant une minute, nous fassions silence. Et j'aimerais que nous puissions nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'après, tu vas faire un exercice, c'est que tu vas te tourner, quand je te le dirai, vers une personne qui est à côté de toi et tu vas lui donner une parole d'encouragement. Mais là, il est temps, comme dans les psaumes, de faire une pause, de rechercher l'inspiration. Amen. Tournez-vous maintenant vers une ou deux personnes et semez une parole d'encouragement. Semez une parole de bénédiction.